France Inter, il est 13h. Le 13-14, Marion Lourd.
Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans le 13-14 sur Inter, à la une aujourd'hui. Ne pas ôter les outils qui nous protègent de la pandémie. Message prudent d'Olivier Véran. Le ministre de la Santé constate une petite poussée des contaminations à la Covid. S'alarmer ou non? Dans ce journal, on fait le point sur la situation. Retour aussi sur l'indemnité inflation annoncée par le Premier ministre hier. 100 euros pour chaque Français qui gagne moins que 2000 euros par mois. Comment va se faire précisément le versement attendu dès décembre prochain? Comment financer ces mesures? Réponse dans le journal. Réaction avec notre premier invité, Aurélien Pradier, député Les Républicains. Un week-end de départ en vacances démarre ce soir et certains TGV restent à quai. Mouvement de grève sur les TGV Atlantique. 1 sur 10 annulé aujourd'hui, 2 sur 10 demain. Marc, lui, a eu de la chance.
J'ai eu de la chance, ouais. Mes deux trains circulent sans problème et j'ai rien prévu pour la journée. Donc j'aurais pu m'arranger, mais c'est vrai que c'est quand même mieux que ça marche comme prévu.
Reportage et explications à suivre. Nous serons aussi à Bruxelles, fin du sommet européen. La chancelière allemande ovationné pour son dernier. Sur le fond, on a parlé migration. Et puis dans la deuxième demi-heure du 13-14, retour sur la révolte des Gilets jaunes. Le film La Fracture de Catherine Corsini sort mercredi. Sa réalisatrice est notre invitée. Vos questions et témoignages 01 45 24 7000. Dans le 13-14, on sait faire aussi le grand écart musical. On écoutera du Elton John. L'artiste britannique sort un nouvel album. Il est bien accompagné. Et puis du Georges Brassens pour rythmer notre feuilleton et la chronique C'est une chanson. Le 13-14, vous avez le menu, c'est parti.
France Inter, le 13-14.
Ce n'est pas le moment de relâcher notre vigilance. Appel à la prudence aujourd'hui du ministre de la Santé face à l'épidémie de coronavirus. Il faut maintenir les outils qui nous protègent, estime Olivier Véran, autrement dit le pass sanitaire qui devrait durer au-delà du 15 novembre. L'Assemblée nationale a déjà dit oui. Les gestes barrières aussi sont concernés et pour cause, le ministre observe une petite poussée des contaminations à la Covid. Bonjour Alice Cachaner.
Bonjour Marion, bonjour à tous.
L'agence Santé publique France note effectivement une hausse des contaminations, chiffre à l'appui.
Oui, après 8 semaines de baisse consécutive, le taux d'incidence est de nouveau à la hausse, plus 10% par rapport à la semaine dernière. 48 nouveaux cas pour 100 000 habitants. On se rapproche doucement du seuil d'alerte fixé à 50. En moyenne, 4600 nouveaux cas sont dépistés par jour. Il y a également un autre indicateur clé, le R effectif, qui est supérieur à 1 désormais. Et puis aussi une légère hausse du côté des appels chez SOS Médecins pour suspicion de Covid.
Et des signaux qui invitent évidemment à la vigilance, Alice.
Oui, d'autant que le taux d'incidence remonte particulièrement chez les plus âgés, plus 30% environ de nouveaux cas chez les plus de 60 ans, une population pourtant fortement vaccinée. Alors, est-ce la confirmation que la protection immunitaire baisse dans le temps? En tout cas, c'est un argument de plus pour les autorités pour rappeler l'importance de la troisième dose. Le signe aussi qu'il y a du relâchement du côté des gestes barrières. Une nouvelle campagne de sensibilisation va être lancée la semaine prochaine. Vous l'aurez compris, la situation est surveillée de très près, d'autant que la saison hivernale approche et avec elle la circulation de plusieurs virus respiratoires, dont la grippe. Pour autant, c'est trop tôt pour parler d'un rebond épidémique, insiste-t-on chez Santé publique France. On préfère parler de poussée, de frémissement. On rappelle qu'à ce stade, il n'y a pas d'impact sur les hospitalisations et que la situation a bien changé par rapport à l'an dernier, puisque près de 74% de la population est totalement vaccinée.
Alice, on avait beaucoup parlé de l'impact de l'épidémie sur la santé mentale. Les données de Santé publique France montrent que sur ce plan-là, les choses ne vont pas mieux.
Et malheureusement, non. Tous les indicateurs restent dégradé par rapport à notre vie d'avant la Covid-19, notamment du côté des pensées suicidaires. On observe même une aggravation depuis la rentrée avec de plus en plus d'états dépressifs et anxieux et surtout une augmentation significative des problèmes de sommeil.
Alice Cachaner du service Sciences et Santé de France Inter, merci à vous et signe que le virus se réveille. Le nombre de classes fermées augmente légèrement, 1246 dans tout le pays, soit 0,24%. Tous les chiffres et le point sur l'épidémie sont à retrouver sur notre site franceinter.fr. Les gestes barrières se perdent un peu, le constat est donc général. Conséquence, les autres virus progressent et pour éviter que la grippe vienne allonger la liste, la campagne de vaccination démarre en avance dès aujourd'hui. Injection gratuite pour les plus de 65 ans, femmes enceintes et personnes souffrant de pathologies comme le diabète, l'asthme ou une insuffisance cardiaque. Les vaccins anti-grippe et anti-Covid sont au programme du Téléphone Sonne ce soir. Vos questions 01 45 24 7000. Une prime automatique. 100 euros net d'impôts versés directement à chaque Français qui gagne moins de 2000 euros par mois. Face à la flambée des prix du carburant, le gouvernement a donc tranché hier. Ni baisse de la fiscalité, ni chèque carburant, ce sera l'indemnité classe moyenne. Cette somme qui arrivera sur les comptes bancaires à partir de décembre prochain. Bonjour Maxime Debs.
Bonjour.
Le Premier ministre l'a dit hier, le versement de ces 100 euros sera automatique. Est-ce que c'est si automatique, si simple que ça?
Eh bien, peut-être pas tant que ça, Marion. En témoigne une réunion convoquée ce midi est toujours en cours pour tenter d'affiner les choses, précise un conseiller. La mesure a été finalisée hier et on a bien en tête, reconnaît-il ce conseiller, que pour les DRH dans les entreprises tenues de verser cette indemnité aux salariés, il va bien falloir intégrer ça dans la comptabilité et gérer aussi les susceptibilités de ceux qui n'y auront pas droit. Outre les salariés, la question va se poser pour le versement de cette indemnité aux chômeurs. Ça passera par Pôle emploi, par l'URSSAF pour les indépendants. Les détails sont en train d'être réglés. Pour ce qui est des employeurs, en tout cas, ils paieront 100 euros de cotisation de moins et ne verront pas la différence, assure Bercy, qui va s'arranger dans le projet de loi de finances pour qu'il n'y ait pas, pour les entreprises, de trésorerie à avancer.
Et hier, le chef du gouvernement a aussi annoncé la prolongation du blocage du prix du gaz jusqu'à la fin de l'année prochaine, alors que la mesure devait prendre fin en avril. Ça alourdit encore la facture. Si on additionne les près de 4 milliards de primes, le coût du gel des tarifs du gaz, celui du chèque énergie, etc., ces mesures pouvoir d'achat se chiffrent à combien et qui va payer, Maxime?
Eh ben bonne question, parce que tout additionné, hein, ça fait beaucoup d'argent. Les seules mesures dédiées à compenser la hausse des prix de l'énergie coûteront 6,2 milliards d'euros aux finances publiques. Là, 3,8 milliards un peu plus avec cette indemnité inflation annoncée hier soir par le Premier ministre, qui bénéficiera aussi finalement aux étudiants, notamment boursiers. On est autour des 10 milliards qui seront financés par quoi? Eh bien, par la reprise, assure le gouvernement, dans cette période de forte croissance. Une partie de ces dépenses seront portées par une hausse des recettes fiscales, plus 4,7 milliards attendus cette année, plus 5,2 milliards l'an prochain, de meilleures rentrées qui permettent aussi au gouvernement d'apaiser à 8,1% sa prévision de déficit pour 2021 et de contenir à 5% celle pour 2022.
Maxime Debs du service économie de France Inter, merci pour ces précisions. Amortisseur tangible et engagement non négligeable de l'État, salue l'association de consommateurs CLCV suite à ces annonces. L'UFC Que Choisir, elle critique une mesure ni immédiate, ni équitable, ni ciblée. Côté politique, les écologistes déplorent l'absence de solutions à moyen terme pour limiter la dépendance à la voiture. La France Insoumise dénonce une mesure injuste, ni juste, ni efficace. Le parti, lui, milite pour bloquer les prix du carburant. La présidente du Rassemblement National, elle, continue de défendre une baisse de la TVA de 20 à 5,5%, la TVA sur l'énergie. Parole maintenant à la droite traditionnelle. Bonjour Aurélien Pradier.
Bonjour.
Député Les Républicains du Lot, secrétaire général du parti Les Républicains. Votre avis, vous, sur cette indemnité classe moyenne, comme l'appelle le Premier ministre ?
Je vais essayer d'être objectif, ce qui n'est pas facile pour le secrétaire général des Républicains que je suis, mais je voudrais l'être parce que c'est un sujet important pour nos concitoyens. Et en étant objectif, je vois à quel point cette mesure relève du pur bricolage. Je vais essayer d'expliquer pourquoi. Du bricolage d'abord parce que ça ne réglera pas le problème de long terme que nous devons régler. On est sur un fusil à un coup ou à deux coups qui ne réglera pas durablement la question de la baisse du pouvoir d'achat pour nos concitoyens. Du bricolage ensuite parce que tout cela vient alourdir considérablement la dette de notre pays et que ce n'est pas un petit sujet. Puis enfin du bricolage parce que on ne sait toujours pas qui va être directement concerné. Je vous donne deux exemples.
Aujourd'hui, 38 millions de Français a priori, c'est ça le chiffre.
Tous ceux qui, a priori, gagnent moins de 2000 euros. Mais comme la mesure va être individualisée, dans un couple où les deux personnes vont gagner 1800 euros, elles ne bénéficieront pas de la mesure. Si dans ce couple, une des deux personnes gagne 1200 euros et l'autre 8000 euros, alors une des deux bénéficiera de la mesure. Bref, tout ça est profondément injuste et bricolé. Et surtout, ça ne règle pas la question de fond que le gouvernement n'a pas le courage de traiter, qui est la baisse de la fiscalité sur les carburants et notre mix énergétique, puisque notre vrai sujet, c'est le mix énergétique, c'est la politique énergétique que notre pays n'a plus depuis plusieurs années.
Alors, Aurélien Pradier, vous nous dites c'est un coût, mais dans un contexte de flambée des prix de l'énergie, il fallait bien faire quelque chose quand même.
Il fallait faire quelque chose immédiatement, mais il faut le faire durablement. Nous faisons des propositions, notamment sur...
Durablement, ça veut dire aussi que ça pèse durablement sur les finances publiques.
Mais la baisse de la fiscalité, c'est une mesure que nous pouvons accepter d'un point de vue plus durable. Vous comprenez bien que nos concitoyens qui vont bénéficier de 100 euros pour faire le plein vont reverser en réalité 60% en fiscalité à l'État, puisque lorsque vous allez faire votre plein avec ces 100 euros, vous êtes fiscalisé par les prix, par les mesures de TVA notamment appliquées sur les carburants. Donc en réalité, il n'y a que 40% qui vraiment va aider nos concitoyens dans leur quotidien. Vous savez, la politique, c'est une affaire de courage. Le vrai courage, c'est pas de faire des chèques en blanc quand ça va mal parce qu'on a peur que le pays s'enflamme. Non, le vrai courage politique, et c'est ce que le gouvernement aurait dû faire en anticipation déjà depuis plusieurs années, c'est avoir une véritable politique énergétique, y compris revoir la question de la fiscalité si on baisse, durablement sur les carburants.
Si on baisse cette fiscalité, Aurélien Pradier, c'est difficile de tenir le déficit à 5% l'an prochain.
Mais le déficit à 5%, il n'est pas tenu de toute manière.
Il est promis en tout cas par le Premier ministre, encore une fois.
Beaucoup de promesses sont faites par le Premier ministre sur la question de la gestion de nos finances publiques. Et s'il y a bien quelqu'un que je ne crois plus en matière de gestion de finances publiques, c'est le Premier ministre, ce gouvernement et le Président de la République. Non, la réalité, c'est qu'ils sont dans une mesure de course en avant. On le voit bien d'ailleurs, ils ne misent désormais que sur la croissance pour pallier l'explosion de la dette. Et tout le monde sait rationnellement que même la reprise ne permettrait pas de financer cette dette. Mais je le redis, notre vrai sujet, c'est d'avoir le courage de poser la question de notre stratégie énergétique. Et là, il y a un problème, parce que le gouvernement ne veut pas assumer que nous ayons encore besoin des carburants pour nous déplacer, et notamment dans les territoires les plus ruraux, où nos concitoyens ont besoin de la voiture, pas forcément électrique, pour se déplacer. Ils ne veulent pas l'assumer politiquement au gouvernement. Et par ailleurs, le choix énergétique du pays est catastrophique entre la fermeture de la centrale nucléaire de Fessenheim, les allers-retours du président de la République. Voilà où nous en sommes aujourd'hui.
On a compris la position des Républicains, Aurélien Pradier, donc une baisse de la fiscalité sur le carburant et réfléchir au mix énergétique. Aurélien Pradier, député Les Républicains, merci de nous avoir répondu sur France Inter. Le Premier ministre, donc, sur le front de l'énergie, hier, aujourd'hui, Jean Castex parle transport et relance du fret ferroviaire. Le chef du gouvernement doit assister à la remise en circulation du train dit des primeurs qui relie Perpignan au marché de Rungis, des fruits et des légumes dans des wagons réfrigérés, liaison interrompue depuis l'été 2019 faute de clients et en raison de la vétusté des infrastructures. La solution trouvée consiste notamment à faire rouler des trains plus courts. Les trains, justement, c'est le point noir du week-end de départ en vacances qui arrive. Nous avons des envies d'ailleurs. Les réservations ont explosé en ces congés de Toussaint. On part même plus qu'avant la crise sanitaire. Sauf que cet élan pourrait bien être un peu refroidi par la question sociale à la SNCF. Un TGV Atlantique sur 10 est annulé aujourd'hui. 2 sur 10 demain. Point d'interrogation pour dimanche. Bonjour Hugo Charpentier.
Bonjour Marion, bonjour à tous.
Vous êtes à Paris à la gare Montparnasse pour France Inter. Quelle réaction sur les quais ?
Eh bien écoutez, pour le moment c'est plutôt calme, il y a de plus en plus de valises à roulettes là qui circulent sous mes yeux à l'intérieur de la gare et on devine bien les sourires sous les masques de leurs propriétaires, des passagers heureux de pouvoir changer d'air à l'image de cette retraitée qui s'en va rejoindre ses petits-enfants en Bretagne.
Ah bah oui, hein, parce que les vacances on y tient, je pense que vous aussi. Bah c'est important parce qu'on va voir nos enfants, nos petits-enfants, on est trop contents de changer de vie.
Et pour Oscar, 20 ans, ce sera direction la Loire-Atlantique.
Voilà, je rentre à Nantes pendant 3 jours pour voir mes parents, tout simplement. Ça fait plaisir, ouais. Ça fait un moment que je les ai pas vus, parce que je travaille en Espagne, et donc du coup, ça faisait un petit moment, donc c'est cool de rentrer, ouais.
Et au bonheur des vacances, eh bien, s'ajoute le soulagement de pouvoir prendre un train. Vous l'avez dit, Marion, un TGV sur 10 supprimé aujourd'hui. Mais très franchement, pas de passagers qui restent à quai. Aucun problème pour Marc, qui a déjà fait ce matin Mâcon-Paris, et qui s'apprête maintenant à partir pour Angers.
J'ai eu de la chance, ouais, mes deux trains circulent sans problème, et après, j'ai rien prévu pour la journée. Donc j'aurais pu m'arranger, mais c'est vrai que c'est quand même mieux que ça marche comme prévu.
Alors en revanche, demain, ça sera un petit peu plus compliqué. Alors du coup, certains tentent d'échanger leurs billets, partir dès aujourd'hui. C'est ce qu'essaie de faire Laurent devant une billetterie automatique dans le hall de la gare.
Je suis venu voir au cas où il y aurait une place de libre pour pouvoir partir une journée plus tôt. Éviter la grève de demain, parce que là c'est 1 sur 10 aujourd'hui, demain ce sera 1 sur 3.
Et donc, que dit la machine ?
Elle se bloque. Voilà, j'ai fait les trois machines sont bloquées. Voilà. Donc je vais devoir aller comme normalement demain, en espérant que mon train soit pas annulé. Voilà, tout simplement.
Et si c'est le cas, eh bien Laurent, comme tous les autres passagers, voyageurs, pourront quand même se faire rembourser ou échanger leurs billets, c'est ce qu'a précisé la SNCF.
On va rassurer un peu Laurent. Merci Hugo Charpentier avec les moyens techniques de Raymond Albouy, puisque les prévisions sont passées à 2 TGV sur 10 annulés seulement demain. L'appel à la grève vient de plusieurs syndicats, CGT Cheminot, Sudrail, CFDT Cheminot, unis pour réclamer de meilleures rémunérations et conditions de travail. Bonjour Philippe Lefebvre.
Bonjour Marion.
Alors quel est le problème précisément ?
Alors c'est pas un problème de robinet, c'est un problème d'argent et de train en moins. En effet, depuis le début de la crise du Covid, le nombre de rames de TGV Atlantique a été réduite pour avoir moins de trains, mais des trains bien pleins et donc, entre guillemets, rentables. Mais le problème, c'est qu'une partie du salaire d'un conducteur est liée justement au nombre de liaisons qu'il va effectuer. Donc, mathématiquement, s'il y a moins de TGV à conduire, fatalement, les cheminots touchent moins d'argent. Ça peut représenter, selon Sudrail, entre 150 et 200 euros de moins sur un salaire en moyenne de 3000 euros. Perte qui ne serait pas compensée selon les syndicats. Ajoutez à cela le blocage des salaires à la SNCF depuis 7 ans et des mouvements de grève réguliers. Récemment, les agents de la police ferroviaire ou les conducteurs de manœuvre, ceux qui amènent les trains avant le départ dans les gares, étaient en grève. Bref, cela donne un climat très tendu à la SNCF depuis le mois d'avril dernier, sur fond d'incertitudes liées à l'ouverture du rail à la concurrence. Et pour le moment, eh bien, les négociations sont au point mort, constate la direction de l'entreprise.
Et voilà pour les trains. Côté voiture, vous devriez croiser sur les routes de plus en plus de modèles hybrides dans les mois à venir. Au troisième trimestre, les ventes d'hybrides ont dépassé les ventes de véhicules diesel sur le marché européen, chiffre publié ce matin. La ministre française de l'Environnement annonce le maintien de la prime à la conversion et du bonus écologique au même niveau jusqu'en juillet prochain, soit 5000 euros pour la conversion et 6000 euros pour l'achat. Bonne nouvelle donc peut-être pour l'environnement, alors que se profile la COP26 en Écosse dans une dizaine de jours. Or, dans la dernière ligne droite, la BBC vient de le révéler, plusieurs pays et entreprises tentent de faire pression sur les experts du GIEC. L'Arabie Saoudite, le Japon ou encore la Suisse espèrent pousser les scientifiques à changer leurs conclusions sur les combustibles fossiles. Benjamin Ely.
C'est Greenpeace, notamment, qui a permis à la BBC de consulter ces quelques 32 000 documents. Il s'agit d'interventions directes, de suggestions insistantes de gouvernements, d'entreprises, auprès du GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, pour que ces derniers modifient leur rapport final. Ces documents dévoilent ce qui se trame en coulisses, comment certains États tentent de minimiser les causes du dérèglement climatique en fonction de leurs intérêts. L'Australie, par exemple, qui exporte énormément de charbon, estime qu'il n'y a pas de nécessité de fermer les centrales électriques au charbon. L'Arabie Saoudite, acteur majeur de la production de pétrole dans le monde, a tenté de faire supprimer du rapport du GIEC l'objectif d'élimination des combustibles fossiles. Le Brésil et l'Argentine, grands producteurs de viande bovine, souhaitaient faire rayer le passage, indiquant qu'un régime végétarien peut contribuer à réduire les émissions de gaz à effet de serre de moitié par rapport au modèle alimentaire occidental. Et puis la BBC note que la Suisse a émis de fortes réserves sur le fait que les pays riches mettent la main à la poche pour aider les pays pauvres à faire leur transition écologique.
En Russie, au moins 15 personnes sont mortes aujourd'hui dans l'incendie d'une usine d'explosifs. Ça se passe dans la région de Riazan, au sud de Moscou. Le feu aurait pris suite à un processus technologique. Explication donnée par le gouvernement russe. L'entreprise Elastic est considérée comme stratégique par l'exécutif russe. À l'étranger encore, dernier jour de sommet pour les dirigeants européens à Bruxelles. Après l'énergie, la question des migrants est à l'ordre du jour. Officiellement, il s'agit de faire en sorte que les réfugiés restent dans leur pays de départ ou dans ceux de transit. Officieusement, la question des barrières revient dans le débat pour couper la route aux candidats à l'exil. Bonjour Angélique Bouin.
Bonjour.
Correspondante de France Inter à Bruxelles, vous suivez ce sommet pour nous. Et 12 pays se disent favorables à ce genre de structure. Certains réclament même des financements.
Oui, 12 pays dont l'Autriche, le Danemark, la Grèce, une position partagée également par la Croatie, accusée récemment de procéder à des refoulements illégaux et brutaux à sa frontière. Son premier ministre, Andrei Plenković, à son arrivée tout à l'heure au Conseil.
Nous devons parler de cette question de murs, de barrières à nos frontières. Nous en avons vraiment besoin à court terme pour gérer cette crise, car personne ne sait ce qui peut arriver demain et nous ne serions pas prêts à relever ce défi.
Ériger des barrières physiques aux portes extérieures de l'Europe, c'est aussi ce que veut la Lituanie ou encore la Pologne, qui ont vu arriver à leurs frontières des migrants en provenance de Biélorussie, pression migratoire orchestrée par le régime de Loukachenko. Alors faut-il les construire avec des fonds européens ? La Commission s'y oppose. Les 27, profondément divisés sur la question migratoire, en discutent ce matin. On peut se protéger, mais il y a des obligations en matière de droit d'asile à respecter, rappelle régulièrement la France, l'Allemagne, mais aussi l'Italie. Certains États, comme comme le Luxembourg défendent bien souvent avec plus de vigueur le respect du droit d'asile, mais ils n'ont aucune pression migratoire, rappelle un diplomate. Aucune décision n'est attendue aujourd'hui. Les 27 vont rappeler en revanche dans leurs conclusions, ce qui ne fait pas débat entre eux, la nécessité de mettre en place et de financer ce qui peut dissuader, disent-ils, les candidats à l'exil de prendre la route, hein, comme la lutte contre les passeurs ou les politiques de retour.
Angélique Bouin, correspondante de France Inter en direct de Bruxelles, liaison assurée par Gilles Gallinaro. Et la chancelière allemande a reçu ce matin une ovation de ses homologues pour son dernier sommet européen. Encore des interrogations en cette mi-journée sur la santé de la personne la plus célèbre du monde, la reine Elisabeth, hospitalisée la nuit dernière officiellement pour des examens. La souveraine britannique est sortie aujourd'hui. Elle aurait bon moral, selon le palais, mais son âge, 95 ans, l'oblige ces derniers jours à alléger son agenda. Aucune poursuite engagée contre l'acteur américain Alec Baldwin, auteur la nuit dernière d'un tir mortel sur le tournage d'un western au Nouveau-Mexique. L'acteur a fait feu avec une arme qui devait être chargée à blanc. La directrice de la photographie est morte. Le réalisateur blessé est sorti de l'hôpital. Selon les médias locaux, il s'agirait bien d'un accident. Lui doit être présenté à un juge d'instruction antiterroriste en vue de sa mise en examen. Rémi Daillet figure des milieux complotistes et soupçonné de projets d'attentat, coup d'État ou autres actions violentes. Il était en garde à vue depuis mardi. Rémi Daillet est déjà poursuivi dans l'enquête sur l'enlèvement de la petite Mia. C'est l'heure d'Arrêt sur audience. Chaque vendredi, nous vous racontons les moments forts et les coulisses du procès des attentats du 13 novembre. Bonjour Sophie Parmentier.
Bonjour Marion.
Vous êtes en direct du Palais de Justice sur l'île de la Cité à Paris. 7e semaine de procès, ça fait un mois que les témoignages de victimes se succèdent. Des centaines de familles endeuillées. Sophie, vous avez entendu près de 300 témoignages.
Oui, c'est un chiffre en fait qui donne le vertige. Pourtant, vous savez, ça représente à peine 10% des parties civiles. Les victimes sont vraiment innombrables et je peux dire que au bout d'un mois, et encore c'était vrai cette semaine, en fait, on prend avec ces récits de victimes qui défilent à la barre, on prend la mesure en fait de cet attentat de masse bien au-delà des 130 morts de ce 13 novembre 2015. Je trouve que c'est très marquant, très flagrant à ce procès un mois après le démarrage des témoignages des premières victimes, d'abord des terrasses et puis en ce moment les victimes du Bataclan, eh bien on voit l'ampleur de l'attentat et ça apparaissait pas de manière si évidente avant ce procès, je crois, puisque personne en tout cas n'avait à ce point conscience qu'il y avait tous les rescapés sortis de la salle de spectacle au bout de 5 minutes. On avait l'impression qu'ils allaient plutôt bien, ils n'avaient pas beaucoup parlé depuis 6 ans et là on les a vus souvent anéantis psychologiquement à la barre, en détresse totale pour certains, alors qu'un court instant, ils ont éprouvé la peur de mourir, la résignation de mourir, et cette expérience de mort imminente s'est figée en eux. On voit les traces 6 ans après, donc c'est des victimes peut-être qu'on avait un peu ignorées. Et puis il y a aussi tous les endeuillés, d'ailleurs, qui sont en train de défiler à la barre, qui avaient peu pris la parole pour beaucoup après les attentats. Et là, on les voit, chaque histoire est très différente, toutes sont très touchantes, et on comprend vraiment, je trouve, de manière très aiguë, cette semaine encore, la masse des victimes, de tous âge d'ailleurs, de 0 à 82 ans. Hier, il y avait un papa dévasté qui a dit « j'ai 82 ans bien tassé » et il était bouleversé par la mort de son fils.
Vous parlez de l'âge des victimes, Sophie, moment particulièrement poignant hier, les témoignages des enfants de victimes du Bataclan.
Oui, on a vu deux sœurs orphelines s'avancer à la barre, Alice et Émilie. Alice était la plus jeune victime à s'approcher comme ça des magistrats depuis le début de ce procès, à témoigner très courageusement à quelques mètres des accusés. Alice a expliqué qu'elle n'avait que 7 ans quand son papa est mort. Elle ne savait même pas ce qu'était la mort. Et puis Émilie, sa sœur qui, elle, avait 10 ans, a expliqué qu'elle n'avait pas reconnu son papa dans le cercueil tellement son visage avait été déformé par la balle de Kalachnikov. Alors évidemment, c'était un moment très éprouvant hier de voir ces enfants dans cette salle d'audience. Et d'ailleurs, j'ai croisé des magistrats eux-mêmes éprouvés. Autre témoignage très très fort hier, celui d'Aurélie Sylvestre. Aurélie aimait Mathieu Giroux. Ils avaient un petit garçon de 3 ans. Elle attendait leur deuxième bébé le soir du 13 novembre. Elle est devenue veuve à 34 ans. Sa fille qui est née 4 mois après les attentats. Aujourd'hui, elle a 5 ans. Et sa fille nous a dit, Aurélie, eh bien, elle a peur que ça maman tombe comme morte elle aussi aujourd'hui. Sa fille qui, parfois toute seule dans sa chambre, chuchote « papa », ce mot qu'elle n'a jamais pu dire du vivant de son père. Et puis, autre témoignage très très fort vraiment hier, celui d'un grand-père qui est venu raconter l'histoire tragique de son petit-fils qui, lui, avait 5 ans le 13 novembre. Il était dans la salle du Bataclan, le plus jeune enfant d'ailleurs présent dans la salle de concert. Il était là-bas avec sa mère et sa grand-mère et l'enfant a été retrouvé sous les corps de sa mère et de sa grand-mère qui ont été tués dans la salle. L'enfant a été sauvé par des policiers de la BAC.
Alors Sophie, heureusement dans ce procès il y a aussi des histoires de résilience et d'amitié.
Oui, l'amitié des potages, par exemple, pour potes et otages, c'est la contraction de deux mots qu'on n'imagine pas forcément mariés ensemble. En fait, c'est l'une des otages du Bataclan qui s'appelle Marie qui a inventé ce mot. Marie, elle a fait partie des otages qui sont venus aussi cette semaine raconter à la barre ce huis clos terrifiant qu'ils ont vécu face à deux terroristes pendant plus de 2 heures dans un étroit couloir. Ils étaient alignés dans ce couloir qui mesurait 1,50 m de large, 10 mètres de long. Ils étaient sous le canon des deux terroristes, un grand et un petit qui leur donnaient des ordres, par exemple regarder le faux plafond, surveiller le faux plafond, répéter tout ce qu'ils entendaient derrière la porte du couloir. Et parmi ces otages, eh bien, on a vu l'un d'eux miraculer entre les miraculés puisqu'il s'est trouvé au moment de l'assaut final de la BRI. Vous savez que c'est la BRI qui a délivré ses otages à minuit 18. Eh bien, l'un de ces otages s'est retrouvé pris en sandwich entre les deux kamikazes au moment où ils déclenchaient leur gilet explosif. Il était à la barre cette semaine très marqué. En tout cas, ces 11 otages, ils étaient 11 dans ce couloir, qui ont frôlé la mort ensemble, et bien c'est vrai qu'ils sont devenus amis à vie, ils se voient souvent, on sent leur lien très très fort, et donc il y a aussi des belles histoires à ce procès qu'on a vu cette semaine.
Sophie Parmentier en direct du Palais de Justice de Paris avec les moyens techniques de Martin Troadec, merci à vous. Donner une seconde vie aux objets, c'est d'actualité. La seconde main fait fureur. Elle s'installe même dans les grands magasins et les appareils d'électroménager ne sont pas en reste. Le groupe français Seb, par exemple, lance une boutique de réparation en partenariat avec un organisme d'insertion. Reportage dans les locaux Porte de la Chapelle à Paris, Yann Gallic.
C'est à la fois une boutique et un atelier de 900 mètres carrés. On peut y louer ou acheter des friteuses, des appareils à raclette, des machines à café, des produits réparés, reconditionnés et vendus jusqu'à 2 fois moins cher que des appareils neufs. Ici, la plupart des clients viennent surtout pour du dépannage.
Moi, c'était un aspirateur que j'ai acheté sur Internet et qui est tombé en panne. Et j'ai trouvé que c'était intéressant de pouvoir faire réparer ces appareils à un prix correct, même s'ils étaient plus sous garantie. Avant, on achetait un aspirateur, ça durait 10 ans. Maintenant, si ça dure 3 ans, c'est un exploit.
Cet atelier emploie une dizaine de salariés en insertion comme Christelle.
C'est vrai qu'au début, ils m'ont beaucoup aidé. Comment utiliser un ordinateur, les pièces, remonter les appareils. Et là, si je vois que Darty, ils embauchent, j'irai.
Formés au métier de réparateur, ces salariés ont de réelles perspectives d'embauche, car le secteur manque de main-d'œuvre, explique Damien Galin, le chef d'équipe.
Le principe de l'insertion au départ, c'est de remettre les gens dans le monde du travail. Ça les forme vraiment au niveau compétences, à un métier nouveau qui a beaucoup de besoins, parce que je crois que Darty cherche 500 personnes. Tout type de réparation confondu.
À terme, cet atelier de réparation espère former au moins une trentaine de salariés chaque année.
Et là, malgré l'âge de l'artiste, on ne parle pas du tout de recyclage. Sir Elton John est de retour. Nouveau disque intitulé Lockdown Session, album enregistré en pleine période Covid et où le Britannique collabore avec des stars de tous horizons, Mathieu Culeron.
Après avoir dû annuler sa tournée d'adieu l'année dernière pour cause de confinement, Elton John s'enferme chez lui à Los Angeles et a l'idée de ses lockdown sessions, faire notamment interpréter ses tubes par les artistes pop du moment, comme avec ce remix de son duo avec Dua Lipa sur Cold Heart. Les stars invités s'enchaînent, Eddie Vedder de Pearl Jam, Damon Albarn de Gorillaz, mais aussi Miley Cyrus avec une reprise de Nothing Else Matter aux frontières du kitsch qui devrait laisser perplexes les fans de Metallica. So close, no matter how far. La part belle est faite au rap dans cet album du Rocketman, avec ce titre particulièrement réussi en collaboration avec le petit génie de 22 ans, Lil Nas X. Huit des 16 titres de cette compilation de collaboration étaient déjà disponibles avant la sortie du disque. Elton John, qui excelle dans l'exercice du mélange des genres et qui dit s'être senti aussi excité que lorsqu'il était musicien de studio à la fin des années 60.
De la musique au cinéma, la réalisatrice Catherine Corsigny est notre invitée dans un instant.
L'Orchestre Philharmonique de Radio France, un orchestre au cœur de la création. Le dimanche 7 novembre à 16h, à l'Auditorium de Radio France, Mikko Franck et l'Orchestre Philharmonique célèbrent le centenaire du pianiste Georges Tschifra avec la création française de la Tschifrapsodia de Peter Hetwösch et offre au public de l'Auditorium de Radio France un contrepoint insolite et monumental avec la Symphonie en Ré de César Franck. Entrez au cœur du concert. Informations et réservations, maison de la radio et de la musique.fr. France Inter aime
l'exposition Enfin le cinéma, art, images et spectacles en France. Présentée au musée d'Orsay à Paris, cette exposition fait dialoguer la production cinématographique française des années 1895-1907 avec l'histoire des arts. Caillebotte, Alice Guy, les Frères Lumière, Méliès, Monet et Vallotton. Ciné-concerts, danse, rencontres, projections dans la nef et masterclass accompagneront cette exposition événement. Enfin le cinéma jusqu'au 16 janvier au musée d'Orsay, un partenariat France Inter.
Le temps en ce vendredi de début de vacances.
La météo avec Euromaster. Toujours là pour entretenir vos véhicules. Avec plus de 400 centres et 800 ateliers mobiles, les experts Euromaster sont partout au service de votre sécurité.
Bonjour Élodie Calac.
Bonjour à tous.
Nuages et éclaircies au programme.
Oui, alors on a pas mal de nuages encore du sud-ouest vers Rhône-Alpes avec quelques averses, mais c'est vrai que des éclaircies reviennent un peu plus belles du côté de Rhône-Alpes. On a des nuages qui arrivent sur les régions au nord de la Loire. Et puis c'est du soleil de la Vendée et des Charentes vers la Bourgogne et l'Alsace. Même chose de la Méditerranée aux Alpes. Le bémol, là, il vient du vent en Mistral-Tramontane jusqu'à 60 à 80 km à l'heure. Et puis pour les températures, c'est frais. Hein. 12 à 18 degrés cet après-midi avec 14 à Paris, à Lyon, 18 à Montauban jusqu'à 23 en Méditerranée.
Merci Élodie Calac de Météo France, il est 13h31 sur Inter.
France Inter, le 13-14, Marion Loup.
La scène se passe dans un hôpital parisien, un jour de manifestation de gilets jaunes. Il y a là des soignants débordés jusqu'à être parfois désagréables, des personnes blessées dans des heurts en marge du cortège des manifestants, des patients qui perdent patience, certains bouleversés, certains psychotiques. Et puis Raph dans son manteau, Agnès B qui s'est cassé le bras en glissant dans une rue parisienne. Aux urgences, elle croise Yann, chauffeur routier et gilet jaune touché à la jambe dans le cortège des protestataires.
Vous savez, on est tous malades ici, hein. On est tous blessés. Il n'y a aucune raison qu'on s'occupe plus de vous. Hein. Vous n'êtes pas non plus un martyr.
Ça va, je ne suis pas un martyr. Vous trouvez ça normal, vous, qu'on nous tire dessus? Non?
Non. Mais ça ne vous donne pas le droit d'être méchant et violent. Et
c'est violent, mais arrêtez, et stop. Qui est violent? Qui est violent? Franchement, sortez un peu de votre bulle. Je sais pas, vous avez peut-être pas de raison vous d'être en colère. Évidemment, pour vous, les fins de mois, ça existe pas. Mais pour moi, les gens autour de moi, on vit pas. Hein. On survit.
Pio Marmaille et Valeria Brunetti Tedeschi, extrait du film La Fracture, dans vos salles de cinéma dès mercredi prochain. Sa réalisatrice est l'invitée du 13-14 aujourd'hui. Bonjour Catherine Corsigny.
Bonjour.
Vos questions et témoignages, chers auditeurs, 01 45 24 7000 et sur l'appli France Inter. Catherine Corsigny, pourquoi revenir maintenant sur cette période des gilets jaunes? Est-ce que vous voyez un écho dans l'actualité?
Je vois un écho alors tellement flagrant et tellement évident avec aujourd'hui les hausses de l'essence, les hausses du gaz, de l'électricité. Enfin, on a l'impression qu'on n'a pas pris la mesure de ce qui s'est passé, d'une France qui est divisée, mais d'une France aussi qui est complètement, qui n'est pas vue, qui n'est pas regardée, qui voilà, qu'on n'entend pas, alors que cette France, j'allais dire, s'est levée, est arrivée, j'allais dire, de, enfin voilà, c'est manifestée de tout, avec ses actes régulièrement de pendant toute l'année 2018. Et 2019. Donc voilà, il y a vraiment quelque chose qui dysfonctionne. On peut pas laisser comme ça, j'allais dire, cette division et j'allais dire ne s'occuper que des gens, j'allais dire les plus favorisés. On a l'impression que la politique finalement n'a été que dans le sens des gens qui avaient déjà le mode d'emploi et que les gens, j'allais dire, qui, comme le dit extrêmement bien le chauffeur routier joué par Pio Marma, Yann, à un moment, vous vous rendez pas compte, voilà, vous êtes vraiment dans votre bulle, les fins de mois, etc. Nous, on n'y arrive pas. Ou quand il dit, tu n'as pas une grand-mère qui gagne 700 euros par mois, etc. Voilà, le film prend, j'allais dire, des exemples extrêmement précis des gens qu'on a vus manifester pendant des années, enfin pendant quelques années, là, tout récemment.
Mmh. Mais c'est vrai que depuis, le gouvernement a déboursé plusieurs milliards hein, suite à la crise des Gilets jaunes. Et puis là, dernier exemple en date de geste pour le pouvoir d'achat, il y a cette prime à 100 euros, cette indemnité inflation à 100 euros qui a été annoncée par le Premier ministre. Vous en pensez quoi? Ça y est, on écoute enfin.
Non, parce que c'est toujours des espèces de petites mesures, mais qui sont structurelles. Il y a quelque chose qui doit être complètement remis à plat, quoi. Les services publics dans les campagnes, tout ce qui a été cassé, je veux dire, c'est tout ça qu'il faut remettre ensemble. Il faut remettre du lien, faut remettre de la cohésion, faut remettre de l'écoute, faut que la culture puisse aussi parvenir dans une France qui est complètement oubliée, qui est pas regardée. C'est tout ça qui est un chantier énorme. C'est pas simplement comme quand tout d'un coup on fait le Ségur de l'hôpital et qu'à la sortie il y a rien et qu'aujourd'hui il y a 5000 lits qui ont disparu depuis la crise du Covid. Donc, on fait des annonces d'un côté, de l'autre côté, on continue à casser quelque chose qui s'appelle, j'allais dire, la France, qui s'appelle le lien, qui s'appelle, voilà, d'être ensemble et qui s'appelle justement d'arriver à vivre tous ensemble et de pas simplement faire profiter les richesses qu'a une certaine classe. Voilà, c'est quand même la base, quoi.
Justement, de votre film, la fracture, ça se déroule dans le huis clos d'un hôpital pendant tout le film. Et on voit, hein, les soignants qui sont débordés, notamment cette infirmière Kim qui a à peine le temps de s'occuper de sa petite fille à elle, qui est assez malade. Et d'après vous, la situation avec le Covid, elle a pas changé, si je vous entends bien?
Ah non, elle a pas changé. Moi, j'ai fait une projection avec 200 soignants. Ils m'ont vraiment, j'allais dire, même tellement témoigné que le film les avait touchés, qu'ils avaient envie que je sois, j'allais dire, leur porte-parole. C'est-à-dire qu'à un moment, ils sont épuisés, les gens s'en vont, ça manque de soignants, tous les médecins aujourd'hui le disent en plus, donc c'est de pire en pire, et ils ont l'impression non seulement de pas être écoutés, mais qu'on se fout d'eux, quoi. Et en plus, ce sont des gens qui sont, j'allais dire, quand on voit justement cette infirmière, comme disent ses collègues qui ont vu le film, elle est exactement comme ça à l'hôpital que dans le film. C'est des gens qui sont tellement attentionnés, tellement dévoués, etc. Donc, la situation n'a pas changé. Après, le film, il relate ces oppositions aussi, justement d'une France qui regardait pas, de gens qui ont, voilà, qui ont comme le personnage de Raph que je représente un petit peu, justement. C'est des confrontations, mais c'est des confrontations drôles aussi, parce que je voulais que le film justement ne soit pas quelque chose qui nous écrase, qui soit un pensum. Je voulais qu'on puisse passer de situation. Donc, je pensais aux comédies sociales de Ken Loach. Je pensais aussi aux comédies italiennes. Donc, je voulais vraiment qu'on puisse aussi rire justement des antagonismes qu'il peut y avoir dans la société, qu'on puisse aussi s'en amuser pour qu'on puisse aussi un moment pouvoir des respirations et pouvoir aussi, quand on se moque les uns des autres, ça nous permet aussi de pouvoir se tendre la main et pouvoir un tout petit peu s'observer. Ça met de la distance. C'est ça que propose aussi la fiction. C'est que c'est une fable, c'est que c'est un récit, c'est que cette nuit, elle est très documentée, mais qu'en même temps, c'est vraiment une nuit de cinéma où on peut parfois, être dans des conditions, dans des situations très, très absurdes et pouvoir vraiment provoquer, l'hilarité, parce que je trouve que ça fait du bien aussi de pouvoir rire ensemble.
On parlait tout à l'heure de cette infirmière Kim, qui est en fait une vraie infirmière, enfin une aide-soignante en l'occurrence, qui a été choisie par vos soins. On a une question justement sur la sélection des soignants, une question de François qui nous appelle de Rennes. Bonjour.
Oui, bonjour.
Bonjour François, oui, votre question à Catherine Corsini.
Oui, j'ai vu votre film, c'est vraiment excellent. On voit vraiment la situation de l'hôpital avant la crise du Covid, qui était déjà parfaitement débordée. Et je voulais juste dire que si on veut que ça change un petit peu, il y a une solution, c'est qu'il n'y ait qu'un seul candidat à gauche en 2022. Et pour ça, il faut vraiment aller signer l'appel de la primaire populaire sur primairepopulaire.fr.
Voilà. On sort un peu du cadre, François.
Pour changer ce système qui est complètement déconnant.
Au-delà de ça, votre question, François.
Et ma question, c'est comment Catherine Corsini avait choisi ses acteurs parmi les soignants.
Mais merci dans tous les cas d'avoir trouvé le film excellent. Merci d'être venu aussi à une avant-première. Merci que le public revienne en salle.
C'est
très 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 important. Voilà que qu'on retrouve le goût et le d'être ensemble et de partager l'envie de voir des films. Ça c'est très important. Alors moi j'ai fait un casting de soignants avec Julie Allion, ma directrice de casting. On a vu 350 personnes qui sont venues comme ça spontanément, qui avaient évidemment beaucoup de choses à dire. C'était après le premier confinement. Je pense qu'il y avait vraiment un besoin de s'exprimer, de parler, etc. Ça m'a évidemment extrêmement servi pour aussi amener plein de petits détails. Et puis voilà, et je voulais avoir une justesse. Je trouvais que l'expertise du soignant dans le film, sa façon, son autorité, aucun acteur n'aurait pu la jouer aussi bien que ce qu'ils ont fait. Et puis, dans tous ces gens que j'ai rencontrés, qui étaient tous, mais vraiment incroyables, j'ai fait des essais, j'en ai choisi quelques-uns et j'ai reconstitué une équipe. Et ce qui a été formidable, c'est de se rendre compte qu'une équipe de soignants et une équipe de cinéma, il y a beaucoup de choses semblables et ils se sont tout de suite, j'allais dire, trouvés, quoi. Parce que finalement, un film, ça peut se faire que si on a une équipe avec soi, un metteur en scène tout seul, il fait pas un film. Et un médecin tout seul aussi, il peut pas travailler s'il n'a pas une équipe de soignants derrière lui. Donc vraiment, le film, il est beaucoup plus du côté, j'allais dire, en plus, c'est pas une médecine spectaculaire que je montre. C'est pas comme on voit d'habitude dans les urgences, des choses comme ça, avec des gens qui arrivent, Non, c'est vraiment des soins quotidiens, des soins de tous les jours. C'est quelque chose, j'allais dire, justement, de plus... La façon dont ils essayent de prendre le temps, parce que voilà, il y a une petite dame qui est en train de perdre la tête, toutes ces choses-là de qui peuvent nous toucher, qui parfois aussi peuvent être assez drôles, parce que quand la dame pense qu'elle est chez elle alors qu'elle est à l'hôpital, c'est toutes ces petites touches qui créent, j'allais dire, à la fois de l'émotion, de l'humanité, et qui montre aussi leur quotidien. Et donc dans tous ces gens que j'ai rencontrés, j'ai eu la chance extraordinaire de découvrir Aissatou Diallo Sagna, qui est une infirmière magnifique, mais qui s'est révélée être une actrice, parce qu'il y a des scènes vraiment compliquées. Il y a une scène de prise d'otage qui est assez costaud, dans laquelle elle nous dévoile une émotion vraiment rare, et en plus,
claire, le film, vraiment.
Ah oui, en plus, l'émotion qu'elle a, elle a su la rejouer, donc c'est vraiment, donc je lui ai dit, t'as trouvé, je pense, le déclic, qu'est-ce que c'est qu'être acteur.
Catherine Corsini, quelle est la part finalement dans ce film, à la fois sur tout ce qui est, tout le côté hospitalier, aussi sur les gilets jaunes, par exemple, à un moment, on demande aux soignants de ficher, enfin, en tout cas, de prendre les coordonnées des manifestants gilets jaunes qui ont été blessés. Quelle est la part du vrai, de la documentation? Est-ce que ça vous a demandé un énorme travail de documentation?
Ah bah je me suis beaucoup, j'allais dire, j'ai passé des nuits aux urgences, évidemment, je me suis beaucoup documentée, je suis allée sur les ronds-points, j'ai rencontré des gilets jaunes que j'ai castés aussi, c'est des discussions, c'est beaucoup de lecture, c'est beaucoup de regarder. Sur le fichage, en fait, c'est toujours la même chose. Au départ, ça part d'une intention extrêmement bonne, j'allais dire, puisque à la suite des tragiques événements qui a eu, des attentats, etc. Il y a des familles qui cherchaient les corps ou les victimes, où est-ce qu'elles étaient, dans quels hôpitaux elles étaient, etc.
C'est de retrouver les gens.
Voilà,
en fait.
Donc ils avaient créé comme ça justement une manière de ficher les gens, ce qui était plutôt ce qui a été fait dans de bonnes intentions, mais comme souvent, parfois, les choses qui sont faites dans de bonnes intentions peuvent après servir à des choses qui sont pas forcément faites de la même façon. Donc là, ça servait effectivement à pouvoir ficher des gens.
Une question de Juliette au Standard de France Inter. Bonjour Juliette.
Oui, bonjour.
Vous aviez une question pour Catherine Corsini.
Ouais. Alors moi, en fait, je commence à être vraiment agacée qu'on présente avec un romantisme exacerbé le moment des Gilets jaunes comme une forme de quintessence du mouvement social, alors qu'il s'agit essentiellement d'un mouvement populiste selon moi, rejet des élites, etc., tout ce qu'on sait du populisme. Mouvement qui n'a d'ailleurs perduré que grâce à certains partis politiques, extrême-gauche, extrême-droite, pour ne pas les nommer, et aux chaînes d'infos.
Je suis désolée de vous interrompre, Juliette, on est obligé d'écourter votre question parce qu'on arrive à la fin de cet entretien et je voudrais entendre la réponse de Catherine Corsini.
Alors évidemment, moi je suis pas d'accord. Après, je suis pas une politicienne, je suis pas voilà. Mais ce que j'ai trouvé extraordinaire chez les Gilets jaunes, c'est leur inventivité. Déjà de prendre des ronds-points et d'en faire des lieux de rencontre, j'ai trouvé ça quand même. C'est un acte de création. Voilà, j'ai trouvé ça formidable. Le côté acte aussi. Alors évidemment, le côté acte, ça fait penser au théâtre, ça fait penser voilà. Je sais pas quel était le directeur de communication. Évidemment, il n'y en avait pas. C'est l'imaginaire collectif qui a créé ça. Plus le gilet jaune, voilà. Je trouve que déjà rien que pour ça, le fait de créer aussi du lien sur des gens qui sortaient plus, qui sont ressortis ensemble. C'est sûr que c'est un mouvement, j'allais dire, qui a été complètement, qui n'est pas issu des mouvements comme on avait l'habitude de voir, qui sont issus d'endroits, j'allais dire, beaucoup plus définis. Là, c'est plein de gens qui n'étaient justement pas regardés, qui se sont retrouvés tous ensemble. Donc, l'abandon, j'allais dire, des politiques, justement, par rapport à ce mouvement, et montrer justement c'est ça qui était important, c'est de sentir que c'est un mouvement justement qui a dépassé tout le cadre politique.
Et on voit tout ça dans votre film, Catherine Corsini, réalisatrice du film La Fracture.
Et surtout que c'est la première fois que les Gilets jaunes sont représentés dans une fiction.
Mercredi prochain, on verra ça. Merci à vous d'être venu sur France Inter.
Merci.
France Inter. Le 13-14.
13h44 à suivre sur France Inter, notre feuilleton, dernier jour en compagnie de Joël Favreau, dernier guitariste de Georges Brassens, concert et paroles au public dans ce dernier épisode. Le vif de l'histoire, bonjour Jean Lebrun.
Bonjour Marion.
Dans votre chronique, on parle journalisme et liberté d'expression.
Oui, une fiction de grand luxe issue d'un roman de Balzac, Illusion perdue.
Rendez-vous juste avant 14h, mais tout de suite, c'est une chanson. Bonjour Frédéric Pommier.
Bonjour Marion.
Georges Brassens aurait eu 100 ans aujourd'hui et c'est la chanteuse franco-britannique Émilie Loiseau qui lui rend hommage à votre micro. Elle vient de sortir Icare, son 5e album studio.
Un album où alterne chansons en français et chansons en anglais. Chez elle, aucune envie de renier sa double culture.
Moi j'ai été élevée entre deux langues, une maman anglaise et un père français. Et il y avait deux figures comme ça, de proue, qui étaient Bob Dylan et Georges Brassens. Donc ça a été un peu mes deux pères spirituels depuis l'enfance. Alors j'aurais pu les rejeter, mais pas du tout. Tout au long de ma vie, ils m'ont accompagné. Donc Brassens, c'est un peu un deuxième papa, quoi.
Il est mort, le poète, aurait dit son compagnon de scène, Gilbert Bécaud, mort à 60 ans tout juste. Georges Brassens avait fêté son anniversaire il y a 8 jours.
Il est mort ce matin, 8 jours après avoir fêté ses 60 ans.
Je crois que c'est mon premier Georges souvenir Brassens de... était né le 22 octobre, ma première conscience de la mort. Parce que j'avais donc 6 ans. Et j'ai vraiment pleuré. C'était tragique pour moi.
Et vous pleuriez comme si c'était quelqu'un de la famille
qui était mort. Ouais, je me souviens comprendre qu'il n'était plus là alors qu'il avait accompagné toute mon enfance. Et puis il avait chanté ce hérisson d'Émilie Jolie qui était quand même, bon, pour moi, forcément ce prénom qui arrivait d'un seul coup. C'était énorme.
Quelle est la fée dans ce livre qui me donnera l'envie de vivre? Quelle est la petite fille aux yeux bleus qui va me rendre heureux?
Il appartient à ceux qui vous ont donné envie de chanter.
Oui, et je sais qu'il y a des moments où des formules ou des mots me sont venus des siens.
Bien que ces vaches de bourgeois, bien que ces vaches de bourgeois, les appels des filles de joie, les appels des filles de joie, c'est pas tous les jours qu'elles rigolent, parole, parole, c'est pas tous les jours qu'elles rigolent. Car même avec des pieds de grue, car même avec des pieds de grue, faire les 100 pas le long des rues, faire les 100 pas le long des rues, c'est fatigant pour les guiboles, parole, parole, c'est fatigant pour les guiboles.
Et là, Frédéric.
C'est donc la complainte.
C'est la complainte des filles de joie qu'a choisi Émilie Loiseau.
Une complainte qui dénonce notamment le mépris et les persécutions que subissent les prostituées.
C'est une chanson que j'ai connue très tôt, évidemment, puisque j'étais biberonnée à ça. J'ai très tôt compris, je ne sais pas à quel âge, mais qu'il y avait un enjeu politique et qu'il y avait un gros mensonge, une grosse hypocrisie de notre monde qui. Voulait cacher ces femmes ou en faire quelque chose de honteux, ces filles de joie, ces putains, alors qu'en fait, elles pourraient être notre mère à tous et à toutes. Et cette manière d'utiliser l'humour pour faire passer une colère intérieure et quelque chose de subversif, je crois que c'est ce qui m'a plu et c'est ce qui m'a accroché.
Il y a des clients, il y a des salauds, il y a des clients, il y a des salauds qui se trompent.
Ça, Frédéric, c'est la voix d'Émilie Loiseau.
Et oui, car elle avait repris cette chanson sur l'un de ses albums et avant cela dans l'émission Le Fou du Roi sur France Inter.
J'avais une certaine émotion déjà de reprendre cette chanson. Et il se trouve que l'invitée était Juliette Gréco, donc j'ai pas fait la maline. Quand je me suis retrouvée derrière mon micro avec elle à, je pense, 2,50 m, et qui s'est retournée comme ça sur son siège, ses deux grands yeux qui m'a scruté comme ça. Donc je sentais bien que voilà, il fallait que j'en voie et qu'elle allait avoir son point de vue sur la chose. Et elle m'a pas lâché du regard. Je sentais son regard sur moi. J'ai mis tout ce que j'avais de passion, de joie, de chanter ce morceau. Et ça lui a plu et on a été amenés à pouvoir se rencontrer après, à manger ensemble chez elle. Et grâce à ce moment, en fait. Donc cette chanson, elle me lie aussi à cette merveilleuse chanteuse. C'était un petit moment qui m'a porté chance. Un petit moment précieux que je vais garder toute ma vie.
Il s'en fallait de peu, mon cher. Il s'en fallait de peu, mon cher. Que cette putain ne fût amère. Que cette putain ne fût amère. Cette putain dont tu rigoles. Parole, parole.
Cette putain dont tu rigoles.
La complainte des filles de joie de Brassens, c'était donc Frédéric Le Choix d'Émilie Loiseau.
Dont le dernier disque magnifique, Icare, est sorti le mois dernier.
Merci Frédéric Pommier. On reste donc avec notre poète moustachu Georges Brassens, qui, on l'a dit, aurait eu 100 ans aujourd'hui. Le feuilleton nous fait passer la semaine avec son dernier guitariste, Joël Favreau, celui qu'il a accompagné sur ses albums à partir de 1972. À 82 ans, Joël Favreau chante toujours Brassens. Notre reporter Jérôme Cadet l'a suivi lors d'un de ses concerts à Annette, en Eure-et-Loire.
Bien sûr qu'on est venu vous chanter des Brassens, mais on est aussi venu en partager certaines avec vous, parce que j'espère que vous allez vous joindre à nous pour quelques chansons qui s'y prêtent, pas toutes, mais il y en a voilà une quand même qui vous tend un peu les bras. Les gens qui voient de travers pensent que les vents verts qu'on voit sur les trottoirs sont faits pour les impotents ou les ventripotents.
Les amoureux qui se mécotent sur les bancs publics, bancs publics, en public, en se disant des je t'aime pas
des dîmes, on a une petite gueule bien sympathique. Je vous remercie encore d'être venus si nombreux. Comme l'a écrit et chanté Brassens, quand on est plus de quatre, on est une bande de cons, et je constate que le quorum est réuni ce soir. Et je m'enorgueillis d'en faire partie. Quand je pense à Félicie, quand je pense à Léonore, mon Dieu, je m'en
mais quand je pense à Lulu, la je ne bande plus. La bandaison, papa, ça ne se commande pas.
Ça vous a plu?
Super concert, ouais. Ah ouais. Pas que des chansons de Brassens, aussi quelques chansons aussi de lui. Enfin, très très beau concert.
Vous êtes un amoureux absolu de Brassens, vous découvrez vous...
Non, je suis fan depuis longtemps et puis je connais quasiment toutes ces chansons de Brassens.
Comment ça vous est tombé dessus?
Grâce à moi.
Ah oui, puis aussi à mon père qui aimait aussi la chanson française, donc forcément je m'y suis intéressé un peu et puis c'est venu comme ça quoi.
C'est une histoire de famille.
Ouais. Bah, mon père est plus là, donc du coup je continue à voilà à apprécier la chanson française et notamment Brassens.
Quand vous écoutez Brassens, vous pensez un peu aussi à votre père. Enfin, il y a aussi
ouais,
ça.
Ouais, il y a aussi ça un petit peu. Ouais, ouais.
Donc un peu d'émotion aussi ce soir en venant ici.
Ouais.
Mesdames, je peux vous embêter deux minutes.
Ah oh, bah oui.
Qu'est-ce que vous avez pensé de la soirée?
C'était magnifique. Ça faisait du bien d'entendre encore les chansons de Brassens, mais on les connaissait toutes.
Mais surtout. Quand je pense à Fernande, hein, quand même. Mais voilà. Je ne sais pas si vous avez remarqué, il y avait quand même beaucoup plus de voix féminines qui prenaient le refrain de « Quand je pense à Fernande ». Ça veut dire quand même qu'on a bien évolué. Hein, et puis que merci Brassens d'avoir permis ça, franchement.
Vous diriez qu'il était féministe, Brassens?
Oh bah largement, attendez. Pas seulement féministe, mais effectivement, de mettre toujours en avant les petits. Et comme les femmes en font partie. Non, c'est magnifique.
Qu'est-ce que vous ressentez quand vous jouez Brassens sur scène devant un public?
Mais c'est un grand bonheur à la fois de le jouer, de le chanter, d'avoir la complicité avec Rodrigue Fernandez qui m'accompagne maintenant à accordéon Et puis de partager les chansons avec les gens, pas toutes, mais quand les gens acceptent de chanter un refrain ou des petits bouts de chansons avec nous, c'est quand même sympa. Alors toutes les chansons ne s'y prêtent pas, mais il y a tout un jeu à faire comme ça, et je dois dire que c'est un grand bonheur, tout simplement.
Vous vous sentez comme un témoin, comme un gardien du temple, de la mémoire, comme un passeur? Je vous sens tiqué là.
Gardien du temple, que le ciel...
Il n'aimait pas bien les temples.
Oui, que le ciel me protège d'une telle vocation. Non, c'est... Maxime Le Forestier dit une chose très juste. Il dit que la plupart du temps, c'est quelqu'un qui vous emmène vers Brassens. Donc, c'est une transmission qui se fait d'être humain à être humain, je crois, pour la plupart du temps. Alors, si je peux remplir ce rôle, je me sens un peu utile, et ça, c'est vraiment agréable.
Joël Favreau en spectacle avec Salut Brassens, demain à Coudou dans les Bouches-du-Rhône, une semaine avec le dernier guitariste de Georges Brassens. C'était le feuilleton de la semaine réalisé par Lucie Lemarchand, à réécouter sur notre site franceinter.fr. Sachez que le Premier ministre, figurez-vous, sera ce soir à 7 pour un hommage à Georges Brassens.
France Inter. Le 13-14.
Le vif de l'histoire ou quand l'histoire rencontre l'actualité, cinématographique en l'occurrence. Jean Lebrun, le film Illusion perdue de Xavier Giannoli vient de sortir. Il donne l'occasion de revenir sur le personnage du roman de Balzac, Lucien de Rubempré, jeune homme de grande beauté et de beaucoup de talent. Porté par les attentes de sa famille de province, il découvre à Paris les délices puis les cruautés du journalisme.
Nous sommes à l'époque de la monarchie constitutionnelle, 1814-1848. Après la dictature impériale, la question de la liberté de la presse était devenue centrale. 1814, Chateaubriand écrivait « Il est temps de libérer la parole et de rendre au pays sa liberté morale ». Charles X, le dernier roi Bourbon, tombera en 1830 pour avoir voulu de nouveau asservir les plumes. À peine a-t-il signé plusieurs ordonnances liberticides que les meilleurs des journalistes de la capitale se réunissent pour les déclarer illégales. Ils font composer leurs articles de protestation au siège du National et du Globe et trouvent un imprimeur courageux qui accepte de sortir de ses presses leurs journaux. C'est la première journée des trois glorieuse dont Louis-Philippe d'Orléans tirera parti pour devenir roi des Français.
Et on note le rôle déterminant de l'imprimeur.
Balzac a été imprimeur, son succès d'ailleurs. Et le sujet de la fabrication l'intéresse peut-être davantage que celui de la liberté. L'un des personnages principaux de ces illusions perdues, que Giannoli a renoncé à mettre en avant, c'est l'ami imprimeur de Rubempré, qui, à Angoulême, s'acharne à inventer un papier qui doit coûter moins cher. Alors aujourd'hui que le papier fait défaut, on comprend que la question est en effet centrale.
Bon, à l'époque, les journaux tirer si peu d'exemplaires qu'il n'avait pas besoin d'énormément de papier.
Oui, alors ce sont ces modestes titres, destinés souvent à un parti, à un seul cercle, que Lucien de Rubempré fréquente à ses débuts. Il lui est reproché de passer d'une feuille libérale à une autre royaliste. Mais il faut bien comprendre que les ultras de droite, comme les gens de gauche, ont pu se retrouver quand il s'est agi de défendre la liberté d'expression. Chateaubriand était le héros de cette lutte. Et la publication qu'il animait, elle avait la taille des publications de l'époque, 3000 exemplaires au départ, en 1819, jamais plus de 6000, elle s'appelait Le Conservateur.
Et ce qui intéresse Balzac, ce n'est pas tant la stabilité des habitudes que le mouvement social porté par la bourgeoisie conquérante.
Marx s'intéressait beaucoup à la comédie humaine. Et Balzac a commencé la rédaction d'Illusions perdues en 1836, l'année où le grand rénovateur Girardin fonde la presse. L'objectif de Girardin, c'est de changer d'échelle. En baissant de moitié les prix de vente habituellement pratiqués, il va élargir son public et l'offrir aux annonceurs publicitaires. La presse de Girardin est vendue deux fois, au lecteur et à l'annonceur. Et il observe avec malice que ça le dispense de se vendre une troisième fois au gouvernement.
Juillet 1836, c'est le début précisément de la rédaction du roman. Le même mois, Girardin blesse à mort dans un duel Carrel.
Du National. Armand Carrel, c'est un personnage de roman lui aussi. Il était du petit noyau initial des Trois Glorieuses. Il était devenu le responsable unique du National qu'il avait orienté vers un républicanisme à l'américaine. Il accuse Girardin de concurrence déloyale. Celui-ci répond par un entrefilet venimeux dans la presse. Carrel aime une femme mariée, on ne peut divorcer à l'époque. Girardin menace de dévoiler le nom du mari. Carrel répond au maître chanteur en le provoquant à un duel dont il sort blessé à mort. J'ai dit que le combat pour la liberté de la presse pouvait réunir droite et gauche. Chateaubriand est accablé par la disparition de Carrel, qu'il considérait un peu comme un fils. aux obsèques civiles. Le vieil enchanteur demande à tenir l'un des cordons du poil. Si Bruno était là, il demanderait c'est quoi le cordon du poil.
Je voulais demander aussi.
Eh ben c'est quand on n'a pas la force de Borloo pour porter sur l'épaule le cercueil de tapis, on tient le cordon du poil. Alors Balzac, il a vu Carrel, cœur pur, tombé au champ de l'honneur. Il s'est vu ensuite, pressé par ses créanciers, vendre ses romans en feuilleton à Girardin. Il ne fait pas une peinture idyllique du métier de journaliste et on le comprend.
Sans commentaire, merci Jean Lebrun. Les auditeurs vous retrouvent demain dans Intelligence Service au programme.
Jean-Luc Nancy, cœur pensant, philosophe transplanté du cœur.
18h15 demain, à suivre après les infos, la Terre au carré. Bonjour Mathieu Vidard.
Bonjour Marion.
Suite de votre périple dans les Vosges avec Camille Cronier.
Suite et fin, aujourd'hui, dernière étape, nous sommes chez Claudie Hutzinger, elle est autrice, elle vit dans un endroit de rêve, c'est le paradis ici à Bambois et on va vous faire vivre eh bien, cet environnement exceptionnel autour de sa maison.
Et ben, rendez-vous au paradis dans quelques minutes, avant ça, merci à toute l'équipe du 13-14, Estelle Schmitt, Anne Patinec et Sarah Guibaudot, assistée de Claire-Sophie Collet, Caroline Desrosiers, Benjamin Ducy, Sylvain Lesage et Julien Loquet, à la technique cette semaine, Henri Bérec et Ronan Mahé, et merci aux standardistes Martin Réglé et Jade Riahi.